Vous êtes sur RTL. RTL Matin, Yves Calvi.
Le journal de 8h avec Agnès Bonfillon. Bonjour Agnès.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
À la une, les policiers unis dans la douleur et la colère.
Après le meurtre d'Andeleur à Avignon mardi, ils veulent une prise de conscience. Ils ne sont pas les seuls. Leur mari et leur femme veulent aussi se faire entendre.
Qui sera la prochaine veuve? Qui sera le prochain? C'est de plus en plus violent. Aujourd'hui, ils veulent tout simplement crever nos maris, quoi. Enfin, il n'y a pas d'autre mot.
L'autre drame, c'est l'assassinat de Chahinez à Mérignac, en Gironde. Comment son mari, déjà condamné pour violence conjugale, a pu s'approcher d'elle? Toujours beaucoup de questions ce matin. Et puis, chacun voit le ch'ti à sa porte. Ils ont beau être voisins, Lens et Lille, ce soir, seront les meilleurs ennemis du monde pour le derby. Chacun a beaucoup à gagner ou à perdre, c'est selon.
RTL Matin.
C'est une véritable mise à mort à laquelle a assisté un voisin mardi à Mérignac en Gironde. Et c'est son témoignage que nous avons choisi de vous faire entendre ce matin sur RTL. Il n'a rien pu faire pour sauver Chahinez, 31 ans, brûlée vive par son mari.
J'ai vu la femme qui était dans le caniveau, la tête dans le caniveau et allongée sur le trottoir. Et le gars qui lui déversait le bidon. Alors moi j'ai hurlé, je lui ai dit d'arrêter, je l'ai traité de tous les noms, de salopard, tout ce que je pouvais. Il n'a jamais détourné la tête. Il s'est baissé, puis il a allumé avec son briquet. Et quand je suis arrivé dessus, j'étais à 1m50, il m'a braqué avec un pistolet. La femme elle hurlait à côté parce qu'elle était, il y avait des flammes comme ça. Un mètre. Et puis il m'a regardé, mais visage vide. Hein. Et puis il est parti en petite foulée. Moi j'ai foncé tout de suite dans le garage prendre des couvertures. Et puis je suis ressorti avec pour essayer de faire ce que je pouvais. Mais vu ce qu'il avait mis comme produit, on éteignait d'un côté, ça repartait aussi sec de l'autre. Et puis après, les couvertures ont pris feu. Et si vous voulez, moi ce que j'ai en tête, c'est cette dame, elle n'est pas morte tout de suite. Hein. Et elle implorait du regard, elle implorait, on voyait ses lèvres qui essayaient de dire quelque chose. Et puis vous êtes là comme un idiot. Et puis après, il y a une dame qui est venue avec un extincteur. On a fini d'éteindre, en fait, en quelque sorte. Et puis, après, moi, j'ai appelé la police. Et puis après, tout s'est enchaîné, quoi.
Un témoignage recueilli par Denis Grandjou pour RTL. L'assassin est en garde à vue, ce n'est pas la première fois. Il y a cette question qui revient sans cesse. Chahinez aurait-elle pu être sauvée? Son mari avait déjà été condamné et emprisonné pour violence conjugale. Alors comment a-t-il pu avoir le champ libre? Bonjour Alice Moreno.
Bonjour.
Des questions et d'ores et déjà un probable dysfonctionnement entre les services de police et de justice.
Et pour comprendre, il faut revenir à la situation de Mounir B. Il sort de prison début décembre, mais il est toujours sous le coup d'un sursis probatoire. Au moindre écart de conduite, au moindre contact avec Chahinez, c'est normalement retour direct derrière les barreaux. Mais il aurait franchi la ligne, l'aurait revu et même agressé mi-mars. La jeune femme dépose plainte pour violence. La police le recherche, mais il demeure introuvable. Pourtant, sur la même période, alors qu'il est recherché, Mounir B se présente plusieurs fois au service pénitentiaire d'insertion et de probation. Fin mars et mi-avril, il est là, en chair et en os, face à son conseiller et n'est pas inquiété, malgré la plainte de son ex-conjointe.
Alors, ces dysfonctionnements, c'est précisément ce sur quoi devront enquêter l'inspection générale de l'administration et celle de la justice.
Absolument, puisqu'en résumé, il était sous la main des services pénitentiaires d'une part et hors des radars de la police d'autre part. La question de l'échange d'informations entre les services est ici centrale. Policier, juge d'application des peines, conseiller d'insertion et de probation, quelle est la responsabilité de chacun? Ce drame aurait-il pu être évité? Les inspections rendront leur première conclusion mardi prochain.
Merci beaucoup Alice Moreno du service police-justice de RTL. La ministre chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes a profité de sa venue sur notre antenne hier soir pour demander à tous les juges de France que les violences conjugales soient désormais prioritaires.
8h04, une marche citoyenne aura lieu à Paris le 19 mai en mémoire d'Éric Masson.
Éric Masson, ce policier de 36 ans, tué mardi à Avignon alors qu'il effectuait une intervention anti-drogue plutôt banale. Ce matin, son meurtrier est toujours en fuite. Cette marche citoyenne dans la capitale est à l'appel de tous les syndicats de police, ce qui traduit une émotion commune à tous les fonctionnaires et pas seulement. Les femmes, les maris, les conjoints veulent qu'on les entende enfin. Écoutez Aurélie Laroussi, présidente de l'Association des femmes des forces de l'ordre en colère.
C'est une angoisse quotidienne. On se demande qui sera la prochaine veuve. C'est de plus en plus violent. Il y a encore quelques années, comme on dit souvent, le but était de faire mal, de blesser du policier. Aujourd'hui, ils veulent tout simplement crever nos maris, quoi. Enfin, il n'y a pas d'autre mot. Tant qu'il n'y aura pas une justice plus ferme dans ce pays, je veux dire, aujourd'hui, qui a peur de la police, franchement? Plus personne n'a peur de la police. Pour être vraiment condamné, il faut en faire en France. Enfin, vous avez des gamins de 15 ans qui insultent, qui caillassent, qui agressent nos policiers, nos gendarmes, sans aucune crainte de la justice.
La présidente de l'association des femmes de force de l'ordre en colère. Un gigantesque incendie cette nuit à Saint-Foy-les-Lyon. Un immeuble s'est littéralement embrasé après un départ de feu sur l'un des balcons. Au moins 11 personnes ont été blessées.
C'est une première en France. Hein. Une victime du Dieselgate va être indemnisée par Volkswagen.
Oui, le groupe allemand vient d'être condamné à verser 4000 euros à Chantal Bellard, l'une des 950 000 propriétaires de véhicules concernés par la fraude au logiciel truqué, souvenez-vous. C'est une information RTL. Cette décision de justice en France pourrait faire jurisprudence et donc s'appliquer à tous les autres plaignants. Ce qui, mis bout à bout, pourrait déboucher sur une somme astronomique pour le constructeur Christophe Bourroux.
Le Dieselgate, c'est déjà une ardoise XXL pour Volkswagen. Plus de 30 milliards d'euros, et c'est aux États-Unis, là où le scandale a éclaté, que l'addition est la plus salée, puisque le groupe a versé près de 10 milliards de dollars aux propriétaires de voitures. En Europe, de nombreuses associations de consommateurs ont engagé des procédures, comme en France, où plus de 950 000 véhicules sont potentiellement concernés. Et pour l'instant, c'est l'Allemagne qui détient le record d'indemnisation avec 830 millions d'euros. Mais le groupe demande aussi des comptes à ses anciens dirigeants et en particulier à son ex numéro 1, Martin Winterkorn. Le constructeur lui réclame en effet près d'un milliard d'euros, autrement dit, plus de 5 ans après la découverte de la triche. Le constructeur n'en a toujours pas fini avec ce scandale qui a touché au total 11 millions d'automobiles dans le monde.
Les informations de Christophe Bourroux pour RTL.
8h07, alors deux nouvelles étapes la semaine prochaine dans la campagne de vaccination, Agnès.
Oui, à partir de lundi, tous les plus de 50 ans pourront prétendre à une première injection. Et mercredi, ce sont toutes les personnes de plus de 18 ans qui pourront bénéficier de doses non utilisées. Alors pour cela, il suffira d'aller sur le site Doctolib pour voir les centres qui disposent de produits en surplus. Pendant ce temps, dans les hôpitaux, la décrue se poursuit, lentement mais sûrement. 5231 patients sont en réanimation. Des services, on le sait, très éprouvés ces derniers mois, tout comme le monde de la santé en général, depuis le début de l'épidémie. Et c'est bien pour cela que deux entreprises d'Île-de-France viennent de lancer un projet assez audacieux. Elles veulent assurer la reconversion de salariés dont le métier est en déclin vers un secteur plus porteur, le tout sans passer par la case Pôle emploi. En l'occurrence, là, il s'agit de femmes de ménage qui se reconvertissent en aides-soignantes dans des maisons de retraite. Pour RTL, Juliette G., vous avez assisté à leur premier jour de formation.
Qu'est-ce qu'on vous posait comme question? Depuis combien de jours vous avez mal au ventre?
Les 9 agentes de nettoyage sont installées dans l'amphithéâtre. Isabelle, la formatrice, leur enseigne à communiquer avec les malades et les personnes âgées.
Comment allez-vous? Bien sûr.
Makengo, 47 ans, est originaire du Congo. Femme de ménage depuis 8 ans, elle a sauté sur cette occasion de changer de métier.
Quand j'ai reçu le courrier, j'ai dit ça c'est une belle opportunité, je ne peux pas louper ça. Une fois j'ai remplacé une aide-soignante, j'ai bien travaillé ce travail malgré que je n'avais pas de diplôme ni formation.
Ce sont des bonnes questions.
Si elle réussit sa reconversion, elle passera de 400 euros par mois à mi-temps à près de 2000 euros à temps plein, toujours en CDI.
Je vais mettre un peu de côté pour mes enfants, pour ma famille.
Pour les deux entreprises, le projet, baptisé Passerelle, c'est du gagnant-gagnant. Malika Bouchioua, DRH chez De Richebourg Multiservices.
Ce qui est super, on peut aussi penser à la reconversion externe sans penser forcément suppression ou modification de poste. Corian, il a une difficulté de recrutement. Donc effectivement, c'est un autre vivier qui leur permet d'assurer le recrutement.
Une 50aine d'employés de l'entreprise vont être formés au métier d'aide-soignante d'ici la fin de l'année.
Le reportage de Juliette G pour RTL. Non, monsieur Macron, tout le monde n'est pas à vendre. Nouvelle réplique du séisme des régionales en Provence-Alpes-Côte d'Azur. D'abord cette tribune ce matin dans le Figaro. 7 membres, les Républicains expliquent leur hostilité à tout ralliement à la majorité. Et il y a aussi Christian Estrosi qui, 2 jours après Hubert Falco, claque la porte du parti. Le maire de Nice veut travailler, dit-il, à une grande formation pour rassembler la droite et le centre.
Il n'y a pas de solidarité nordiste qui tienne. Avant la rencontre Lens-Lille ce soir, c'est chacun pour soi. Il s'agit de football et même de Ligue 1. On se retrouve dans un instant pour vous expliquer tout ça. Bonne journée à l'écoute d'RTL.
RTL Matin.
11, la suite du journal d'Agnès Bonfillon. C'est peut-être un simple derby pour vous, mais pour eux, ça veut dire beaucoup.
La rencontre Lens-Lille en ouverture de la 36e journée de Ligue 1 ce soir comporte de gros enjeux pour chacune des équipes. Les Sang et Or doivent gagner pour participer à la Coupe d'Europe et les Dogs, eux, veulent conserver leur place de leader au classement. Nos deux supporters de choc avec nous ce matin, Antoine Decarne et Franck Hanson, bonjour à vous.
Bonjour.
Alors commençons par ceux qui ne lâcheront pas leur hausse, facile. Les Lillois, avec vous Antoine, c'est l'occasion ce soir d'avancer encore un peu plus leur pion pour remporter le championnat.
C'est ça, leader à trois journées de la fin, le LOSC a son destin en main, guidé par l'un des meilleurs coachs français, Christophe Galtier. Ce Lille-là est solide défensivement et toujours dangereux offensivement grâce à son attaquant turc, Burak Yılmaz, 13 buts cette saison. Et pour ses supporters comme Franck Defenin, le LOSC va prendre le dessus sur les Lensois.
On a la meilleure équipe et on a un plus beau palmarès. Entièrement confiance à notre équipe. Et si on gagne là à Bollard, après on peut plus nous arrêter, quoi. Et donc on doit aller gagner là-bas en terre lensoise. Si on est champion, bravo monsieur Galtier, bravo à l'équipe.
Et Lille part avec un avantage psychologique. Les Dogs ont battu Lens 4-0 au match aller. Et avec le PSG à un point, le LOSC ne peut pas se relâcher ici. Toute la ville est parée de rouge et de blanc pour soutenir son équipe, 10 ans après le dernier titre de champion de France.
Une chance pour Lille d'être champion de France, mais la belle affaire, c'est un peu ce matin l'état d'esprit des Lensois. Eux doivent tout faire, Franck Hanson, pour rester dans la course européenne.
Oui, en effet, un pas de cadeau à l'ennemi du Nord et une revanche à prendre. Le RC Lens, imaginez, qui a traversé des années de galère, promu cette année, entend bien confirmer cette cinquième place et cette qualification en Coupe d'Europe. Question d'honneur aussi, hein, même si le Stade Bollard sera vide. C'est tout un peuple sang et or qui est derrière les hommes de Francaise. Ici, dans cette rivalité, il y a toujours cette image du club bourgeois face aux ouvriers. Mais ici, on vit le football, nous confirme Didier Delannoy de la Fédération des supporters lensois.
Quelque chose que Lille n'aura jamais, c'est cette population, cette suprématie au niveau des supporters, certainement le meilleur public de France. Il y a énormément de gens qui s'identifient aux couleurs sang et or. Il y a toujours eu cette arrogance lilloise. S'ils sont champions, ils l'auront mérité, mais on ne souhaite pas du tout qu'ils soient champions.
Voilà, ils sont là. Et avant ce derby ch'ti, ce soir, ces supporters qui étaient 2000 hier à l'entraînement comptent bien saluer leurs joueurs dans les rues lensoises qui seront tout de même placés sous haute surveillance.
En tant que supporter du Paris Saint-Germain, Louis Bonnin et moi pensons qu'un match nul nous convient. Un match nul nous conviendrait très bien et cette égalité, cette répartition nordiste nous va très bien.
Merci beaucoup en tout
cas. Ce sera un ch'ti qui gagnera de toute façon. Donc voilà, ce sera le meilleur.
Bon match messieurs en tout cas. Lui n'était passé ni par le LOSC ni par Lens. En revanche, Christophe Revault laissera de très nombreux souvenirs au PSG, à Rennes et bien sûr au Havre, son club formateur. Pour lequel il en a arrêté, des buts improbables. Âgé de 49 ans, cet ancien gardien a été retrouvé mort chez lui hier. On ne connaît pas encore les circonstances de son décès.
Il est 8h14, à partir du 19 mai, ça va jouer à terrasse fermée pour certains restaurants.
Oui, ceux qui possèdent des terrasses et qui ont déjà de nombreuses demandes de réservation. Ils ne sont pas les seuls à rouvrir ce jour-là, vous le savez. Les musées aussi vont pouvoir accueillir du public avec des préinscriptions, d'où les standards littéralement pris d'assaut. Vous avez pu le constater à Paris, Vincent Serrano, au musée de l'Orangerie qui vient tout juste d'ouvrir sa billetterie.
Établissement du musée d'Orsay.
Et ça n'arrête pas une seconde, le fil des combinés, des souris d'ordinateur bouge dans tous les sens. Alors, à l'instant, une réservation pour une école avec vous, Sandrine, on s'attendait à ce boom dès le premier jour.
On s'attendait à ce qu'ils réagissent très vite, mais à cette explosion d'appels et de mails, peut-être pas. Les groupes scolaires sont très en demande, ils sont prêts à venir, même en demi-jauge, même en coupant les classes en deux. Donc, ils sont très très mobilisés et on a un nombre de mails exponentiel. C'est très très encourageant et ça nous fait vraiment très plaisir de pouvoir trouver tous nos visiteurs.
Alors ça, c'est pour les groupes, pour les réservations individuelles, c'est avec vous Didier.
Au taquet, on va dire, puisqu'on reçoit des tonnes de mails qui veulent savoir comment on va rouvrir. Voilà, oui, on va avoir beaucoup de monde, oui, bien sûr.
Tout cela conditionné, bien sûr, à la problématique des jauges. Guillaume, vous êtes le responsable.
Oui, bien sûr. Nous avons une jauge qui est limitée à 400 entrées par demi-heure, 4000 visiteurs au maximum par jour. Il faut se dépêcher pour réserver et revenir à une situation normale à partir du 30 juin.
Et on jette un coup d'œil au tableau récapitulatif sur un écran d'ordinateur, quasiment 10 000 réservations pour cette première journée, ce qui fait dire que cette réouverture va faire beaucoup de bien à beaucoup de monde.
C'est certain, le reportage de Vincent Serrano pour RTL.
Merci beaucoup Agnès Bonfillon, on vous retrouve à 9h pour un prochain point sur l'actualité.
RTL Matin, Yves Calvi.
Achetez-vous parfois des produits du commerce équitable? Apparu il y a près de 30 ans sur les paquets de café venus d'Amérique centrale, le label équitable concerne désormais la banane, le chocolat, le thé, bien d'autres produits d'ailleurs. Bonjour Virginie Garin.
Bonjour.
Le numéro 1 du secteur, Max Avelard, a annoncé cette semaine qu'il se lançait dans le commerce équitable français. Ça veut dire qu'on aura bientôt des produits français équitables comme du lait ou des céréales?
Voilà, il y a des petits producteurs pauvres à l'autre bout du monde, mais un tiers des paysans français vivent avec moins de 300 euros par mois. Et donc Max Avelard, qui est une entreprise qui certifie le commerce équitable, oui, qui va contrôler sur place, vient d'annoncer qu'elle allait travailler avec des producteurs de lait de Poitou-Charentes et des céréaliers du Gers.
Alors, que veut dire exactement commerce et équitable? Si on prend l'exemple du café, qu'est-ce que ça garantit? Alors,
c'est un revenu plus élevé pour le producteur. Au cours mondial, le kilo de café est payé 2 dollars. Eh bien, le café équitable est payé 60 centimes de plus. Et puis, est versée aussi une prime collective à la coopérative pour financer des projets sociaux, construire une école, un cabinet de dentiste, un centre médical, dans des villages de producteurs qui sont en général très pauvres.
Donc, s'ils sont payés plus cher, Virginie, ça coûte plus cher aussi pour le consommateur?
Eh bien, pas forcément. Ah. C'est souvent le même prix. Les marques qui proposent des produits équitables réduisent leurs marges pour vendre plus. Et ça marche. Le Covid a boosté les ventes du commerce équitable. Le chocolat, on s'est fait plaisir. Et puis, il y a une vraie tendance des gens qui veulent donner du sens à ce qu'ils achètent. En plus, quand vous êtes en télétravail, vous buvez du café chez vous. Donc, Malongo, le leader du café équitable, a vu ses ventes grimper de 50% lors du premier confinement. Vous connaissez peut-être la boîte en fer rond des petits producteurs de Malongo.
Oui.
Ben, c'est la deuxième référence de café vendu en France après Carte Noire.
Alors, ça représente quoi le commerce équitable en France, Virginie?
Près de 2 milliards de chiffre d'affaires. Le plus gros marché, c'est la banane. 12% de toutes les bananes vendues en France sont équitables. Ensuite, il y a le café, le chocolat d'Amérique du Sud, d'Afrique et donc bientôt des produits du Gers et de Charentes.
Au Mexique, vous l'avez dit, le prix plus élevé payé aux producteurs permet de financer des dispensaires, des cabinets dentaires. Ça ne va pas être le cas en France.
Bah non, on a des dentistes. Oui. Max Avelard va travailler en France avec 5 coopératives. Elle leur versera une prime aussi qui servira à aider des agriculteurs isolés, par exemple à trouver un remplaçant de temps en temps pour prendre des vacances. Donc des actions sociales un peu différentes.
Ouais.
Et attention, ce lait et ces céréales français, pour être labellisés Max Avelard, devront être mélangés à des produits du Sud. Donc on les trouvera en grande surface en fin d'année. Il y aura des biscuits, des viennoiseries aux céréales françaises avec des pépites de cacao d'Afrique. L'idée est d'aider les producteurs des pays du Nord en aidant aussi ceux du Sud.
Tout cela est passionnant, nos sociétés évoluent et ça fait du bien de l'entendre. Merci infiniment Virginie Garin. De notre brigade RTL dans un instant.